The French have a very different relationship with work than the rest of us, right? In that they don't give a shit about it. Which honestly I found inspiring. Yeah. I feel like a lot of us have become a little too attached to our work, you know? We identify with our work. Have you ever asked somebody just randomly, be like, hey, tell me about yourself? And they'll be like, well, I'm an architect. And tell me about yourself. Well, you know, I own a hair salon. And tell me about yourself. And people will tell you about what they do. You know, it's become the thing that people focus on. The French don't do that. You'll never meet a French person who does it. You go up to a French person, you'd be like, excuse me, what do you do? Be like, oh, me, I go for walks with my friends and... You know, I like to, eat good food. And you're like, no. What do you do for a living? It's like, ah, for a living. Pardon. Okay, for a living. Okay, no, I breathe. And, of course, I have to make love, you know.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popo Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Pourquoi les médias français sont-ils tombés si bas au point de ne plus informer, mais de manipuler? Pourquoi 90% des chaînes de télé, radio et journaux appartiennent aujourd'hui à seulement 9 milliardaires? Qui décide vraiment de ce qu'on regarde, de ce qu'on croit et de ce qu'on doit penser? Pourquoi les chaînes publiques, censées garantir une information libre et neutre, sont aujourd'hui vidées de leur sens, pendant que les chaînes privées explosent et imposent leur vision du monde? Pourquoi chaque jour on voit les mêmes invités, les mêmes experts, répéter les mêmes discours? Pourquoi les sujets qui dérangent disparaissent des plateaux, pendant qu'on nous gave de divertissements inutiles? Et qui finance tout ça, vraiment? Pourquoi les grands fonds privés, les multinationales et même des lobbies investissent par des millions dans la presse et les médias? Est-ce encore de l'information ou juste une stratégie d'influence? Pourquoi ceux qui possèdent mal les médias sont aussi ceux qui contrôlent la politique et l'économie? Peut-on encore parler de liberté de la presse ou a-t-on basculé dans la propagande moderne? Et si le vrai danger c'était qu'on ne nous informe plus, mais qu'on nous formate?
Après la langue pénale et zoo, Jacques Monique présente son nouveau livre « Sommes-nous des caméléons ?» Présentation et signature le mardi 13 novembre à l'hôtel NSI à Ébène à 17h45. Le public est cordialement invité. À la demande des libraires, lancement également de la troisième édition de La langue pénale et zoo. Sommes-nous des caméléons? Le nouveau livre de Jacques Monique.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeur et locuteur. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres, livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Et Zola,
nous là.
Et Zola,
toujours là.
Et Zola,
nous là.
Et Zola,
toujours là.
Et Zola,
nous là.
Et Zola,
toujours là.
Comment c'est Zola, Zola,
Zola. Toujours là.
Édition spéciale, le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le KEPCA, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Popourri Show, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM. Le mois du créole propose cette année une programmation riche et inclusive, concerts, spectacles, de l'humour, ateliers de danse, à la rencontre des écrivains et artistes créoles du monde, découvertes culinaires, la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien, conférences, table ronde et un hommage particulier à notre ami et grand musicien du groupe Cassav, parti hélas trop tôt, Jacob Desvarieux, à surveiller chaque dimanche sur CUT-FM. Du 4 au 31 octobre, le KEPCA et Sarel B, porte-parole, artiste multidisciplinaire et humoriste, vous invite chaleureusement à visiter le site web moiducreole.ca ou popourrichaud.com pour la mise à jour de la belle programmation du mois du créole Montréal. Pour toute information, fk@videotron.ca. Tout au long du mois d'octobre, découvrez la richesse et la beauté des peuples créoles du monde sur votre fréquence et sur moisducréole.ca. Mot en vie ou les cas contents. Bon mois du créole 2025.
Je suis Kélia Paulin, donc je suis une artiste de la Martinique. Et j'ai créé en fait un concept que j'ai appelé Créole Cover, où je revisite les standards musicaux de la Caraïbe, mais aussi je revisite des standards internationaux que je traduis en créole. Tout tourne un peu autour de cette langue créole que je chéris et que je prends plaisir à mettre en avant.
Gare de l'Est, en juillet dernier, Kélia Paulin reprend une chanson de Bruno Mars en créole et crée le buzz sur les réseaux sociaux. C'est chez elle que tout a commencé pendant le confinement. En manque de la Martinique, elle se met à revisiter des standards de la musique antillaise.
J'étais vraiment dans une nostalgie indescriptible et ça a été très naturel. Au début, il n'y avait pas forcément de projet. Avec les retours, j'ai eu envie d'en refaire une autre. Et cette fois-ci, j'ai un peu changé d'angle en me disant, en fait, si je revisite, il faut que je revisite à ma manière.
Le projet Créole Cover est né. Kélia reprend des chansons de Mario Canonge, de Cassave ou de Paille avec l'objectif de valoriser la langue créole.
Le créole, parce que c'est ma deuxième langue maternelle, parce que c'est une langue qui, à tout moment, peut disparaître si on ne la parle pas, si on ne la met pas en valeur. En fait, je prends soin, dans mes vidéos, par exemple, de l'écrire et de le traduire.
Depuis 2 ans, Kélia Paulin fait partie des musiciens du métro. Elle a été sélectionnée et peut ainsi se produire sur une scène plus que particulière, fréquentée chaque jour par des milliers de personnes.
J'ai passé les auditions du coup des musiciens du métro pour aussi me faire violence, parce que je suis quand même de nature assez timide. Et c'est vrai que le fait que les personnes ne soient... Voilà, ils passent leur chemin, ils écoutent s'ils en ont l'envie, il n'y a rien d'obligatoire. Et voilà, j'aime bien cette petite ambiance.
C'est quelque chose de très agréable mélodiquement.
Une mazurka en créole dans les couloirs du métro, de quoi redonner le sourire et même faire danser certains passants à qui cela rappelle des souvenirs.
Je me suis arrêtée tout de suite parce que oui, effectivement, ça m'a été interpellée. Elle est vraiment belle cette chanson et c'est du temps, c'est toute ma jeunesse en fait.
Elle a une voix au top. Allez, au revoir. Bonne continuation.
Je viens chercher du sourire. C'est beaucoup de bienveillance finalement et je repars toujours hyper satisfaite.
Dans le public ce jour-là, sa maman et son oncle qui l'accompagnent dans ce projet depuis le début. Ils assistent à sa dernière prestation dans le métro, car une nouvelle aventure l'attend, en Martinique cette fois.
Bonjour Kélia Paulin.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Ça va bien?
Ça va, ça va.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Kélia Paulin, je suis artiste, chanteuse et musicienne. Et voilà, j'ai lancé un concept que j'ai appelé Créole Cover, où je reprends, je revisite des standards de la musique caribéenne.
Tu as grandi où?
J'ai grandi en Martinique, à Ducos plus précisément. J'y suis restée 20 ans et puis au moment de partir faire mes études, du coup, je suis allée en métropole pour étudier.
Ouais, où?
Alors, j'ai un petit peu bougé. J'étais à l'école de Bordeaux et puis dans mon cursus, il fallait intégrer une année à l'étranger. Donc, je suis partie en Australie notamment, au Canada, pour me rebaser à Paris une fois que j'ai trouvé un travail.
Et à quel moment la musique entre dans ta vie?
Alors la musique entre dans ma vie très tôt, tellement que j'ai du mal à répondre à la question. Mes deux parents sont musiciens, ma mère est chanteuse choriste et mon père est chef de chœur, prof de chant, prof de musique aussi.
Ici en Martinique ?
Ici en Martinique. Et du coup, c'est vrai que je suis née vraiment dans un univers musical. Je n'ai pas vraiment eu le choix, voilà, de décider par exemple d'un instrument, parce que le piano était déjà là. Et donc, voilà, la musique est arrivée très très tôt, dès bébé en fait, dans ma vie.
Et c'est quoi les mélodies qui remontent de ton enfance ? Même si la musique était très présente, la musique qui s'impose, c'est quoi ? C'est de la musique classique, c'est de la musique traditionnelle, c'est de la musique, c'est de la salsa, c'est quoi ?
Alors, je dirais que c'est un mélange de tout. La musique classique, par rapport au fait que j'ai une formation classique du piano, donc c'est beaucoup de Chopin, beaucoup de Bach, etc. Mais aussi de la musique traditionnelle, qu'on écoutait aussi beaucoup à la maison. Mon père, notamment, ça lui tenait à cœur de pouvoir aussi transmettre voilà, le patrimoine musical à travers des standards.
Lesquels?
Typiquement, l'album d'empreintes de Fernand Donatien était de façon récurrente en train de jouer à la maison. Mmh. Et puis aussi beaucoup de salsa. Moi, je vais des souvenirs de Celia Cruz, par exemple, beaucoup à la maison. Puis aussi beaucoup de jazz, Nat King Cole aussi. C'était assez varié. Assez
et
varié.
Tu chantes Nat King Cole ?
Ça m'est arrivé, oui.
Qu'est-ce que tu chantes de Nat King Cole ?
J'aime bien Love, par exemple.
C'est quoi ?
Ça m'est arrivé.
C'est quoi ?
Love.
Et tu as dit tout à l'heure, quand tu as parlé de la musique classique, tu as eu une expression avec tes yeux, Chopin, Bach, comme si c'était un peu barbant, ça l'était.
Alors, je ne trouve pas ça barbant avec le recul, parce que je pense que cette formation classique m'a beaucoup appris. Notamment en termes de rigueur aussi, d'interprétation. Voilà, c'est une formation, voilà, qui m'a beaucoup servi. Après, je me souviens aussi de mon adolescence où j'ai eu quand même cette interrogation de vouloir switcher un petit peu plus sur de la musique traditionnelle. J'avais eu le sentiment, voilà, de jouer une musique qui n'était pas actuelle finalement. Et c'est vrai que quand on est adolescent, qu'on joue du piano, bah c'est vrai que Chopin, au bout d'un moment, on l'adore, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment,
c'est un peu ancien.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, tu composes ?
Oui, alors je me suis mise à la composition. C'est très récent.
Oui, c'est où ? J'ai vu ça.
Tout à fait. C'est un titre que j'ai sorti en janvier 2024. Mmh. C'était la première fois que je faisais l'exercice et j'ai trouvé ça très très chouette en fait de pouvoir déjà dire ce que je ressens, de pouvoir montrer aussi mon univers parce que jusqu'ici je faisais beaucoup de reprises donc j'essayais de revisiter en apportant une touche personnelle, mais c'est vrai que ça reste le texte d'autrui qu'on se réapproprie et là c'était vraiment l'occasion de pouvoir écrire exactement ce que je ressentais et ça m'a beaucoup même aidé en fait dans ma démarche de retour au pays notamment voilà c'est où c'est vraiment une même au-delà des paroles de pouvoir composer une mélodie
musique et les paroles précisément
exact
tu es auteur-compositrice
c'est ça
et la chanson dit Koulé Ayès c'est lui qui fait moins connaître d'autres chemins
exact
c'est quoi ça c'est une histoire d'amour. Je dis, c'est quoi ça ? Non, c'est une histoire d'amour.
Exact, oui.
Mais c'est lui et quelqu'un d'autre.
C'est ça, c'est-à-dire, c'est, pour moi, c'est une chanson d'amour à la Martinique. C'est une relation qu'on a, que j'ai essayé d'exprimer et de transcrire en musique. Et de pouvoir dire, en fait, que le retour au pays, c'est un choix qui est personnel et qui, à mon avis, se passe de tout jugement et qui n'est pas évident. Et c'est ce que j'ai voulu, c'est l'approche que j'ai voulu avoir. De dire, en fait, la Martinique, je t'aime, tu seras toujours dans mon cœur. Voilà, la Martinique, ce sont mes racines, etc. C'est l'endroit où je me sens bien. Mais c'est vrai que le fait d'avoir passé beaucoup de temps ailleurs et d'avoir fait des rencontres, notamment, eh ben, ça fait que voilà, cette décision de retour, eh ben, elle pose des interrogations.
Elle coûte.
C'est ça, c'est un espèce de tiraillement que j'ai voulu expliquer en chanson, de dire... C'est où, Célie, voilà.
Et aujourd'hui, tu es basée ici ?
Aujourd'hui, je suis basée ici. Donc, j'ai dit aujourd'hui, parce que je ne sais pas voilà, de quoi demain est fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis basée ici.
Et c'est difficile ?
Alors, c'est, oui, ça peut l'être.
Qu'est-ce qui est difficile, pardon ? Qu'est-ce qui est difficile ?
Je pense que je suis arrivée au stade où j'ai habité 12 ans ailleurs.
Australie, et, tu nous as dit.
Alors, 12 ans en Australie, oui. Canada, oui. Paris,
en France,
voilà, en France aussi. Oui. Et ces 12 années, en fait, ce sont des années où je me suis ancrée aussi ailleurs. Et finalement, ça pose aussi des questions sur comment se sentir bien, en fait. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que le bonheur dépend de là où on vit?
Le territoire,
exactement. Mmh. Ou est-ce que le bonheur dépend des personnes qui nous entourent? Et donc, voilà, toutes ces réflexions font que aujourd'hui, je pense avoir... ça m'a en tout cas fait beaucoup de bien d'écrire cette chanson. J'ai pas forcément de réponse à la question de ce que je devrais ou ne pas faire. Mmh. Mais c'est vrai de poser des mots, en fait, sur... un sujet qui me paraît universel, et j'étais très contente d'ailleurs d'avoir des retours de personnes qui ne sont pas antillaises et qui tout simplement partagent un peu la même expérience d'habiter depuis très longtemps dans un endroit où ils n'ont pas forcément grandi. Et voilà, c'est vrai.
Ils sont de cet endroit-là.
Tout à fait, oui.
C'est la question, c'est une question politique aussi, ça. C'est
tout
une question
à fait.
Nationalisme, c'est la question effectivement du territoire.
Tout à fait. Et je trouve que c'est assez particulier peut-être en Martinique, dans le sens où voilà, j'étais en école de commerce notamment, et je voyais des jeunes étudiants rentrer chez eux dans voilà divers départements, etc. Mais c'est vrai que bon bah moi je ne pouvais pas forcément y aller parce que tous les week-ends ce serait impossible de retourner en Martinique. Ce serait compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même particulier pour la Martinique parce qu'il y a l'éloignement et aussi parce que il y a un esprit aussi très patriotique. On a cette idée aussi de d'urgence démographique. On sait très bien que la population vieillit, que les jeunes partent mais ne reviennent pas forcément, que les retraités viennent s'installer. Donc il y a quand même aussi cette idée de vouloir se dire ah ben j'ai envie de contribuer finalement à un essor, j'ai envie en fait d'être là. Alors des fois je me dis ben je peux contribuer à distance, mais des fois je me dis bah oui mais en étant là c'est encore mieux. Donc cette réflexion là aussi de retour au pays et de la situation en fait du pays forcément me touche et j'ai envie aussi d'avoir une posture par rapport à ça.
Et alors tu disais tu as fait une école de commerce.
Oui.
Et tu as exercé dans ce milieu là ou bien tu es musicienne?
Alors en fait j'ai exercé dès la sortie d'école. Donc j'étais en gros en marketing digital. Je m'occupais notamment de sites internet et de faire en sorte que ça génère de le maximum de leads quoi en gros. Et en fait la musique c'est très récent, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu le confinement et cette idée finalement de ne pas pouvoir rentrer justement c'est quelque chose qui m'a beaucoup secouée et j'ai été très nostalgique à ce moment-là. Et c'est comme ça que la musique est revenue dans ma vie. Parce que le fait d'être partie faire mes études, eh ben, j'ai abandonné la musique vraiment pendant 12 ans, mais vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout chanté, je ne jouais plus au piano. Enfin, c'était comme si le fait d'être partie, avec le recul, je me dis, j'avais tellement fait de la musique ici, avec des personnes spécifiques, que le fait d'être partie, c'est comme si ça m'avait un petit peu déracinée. Et je suis arrivée là-bas, j'étais aussi curieuse de découvrir autre chose, et du coup, la musique est restée sur le côté. Quoi.
En tout cas, alors, l'année dernière, en juillet 2023, on t'a découverte, comme on dit, tu as fait le buzz, le gros buzz avec ce cover de When I Was Your Man de Bruno Mars, donc, et tu étais donc à la gare de l'Est, mais tu as joué dans le métro.
Oui.
Tu as joué dans le métro, tu as participé au programme de la RATP, musicienne du métro.
C'est ça.
Voilà.
Oui,
dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Et puis, qu'est-ce que ça procure de jouer dans le métro? Il y a une acoustique incroyable.
Oui. Eh ben, c'est justement lié au confinement. Donc, j'ai eu cette envie de me remettre à chanter, de recommencer à faire de la musique. Et spontanément, j'ai eu envie de chanter en créole. Donc, le plus facile pour m'y mettre, c'était pas forcément la composition, justement. Donc, je me suis plutôt tournée vers les covers. Et puis, c'était très virtuel, finalement, parce qu'on était confinés, donc tout fonctionnait avec les réseaux. Et j'avais quand même cette envie de pouvoir me produire devant de vraies personnes, devant un vrai public. Je n'étais pas forcément entourée de musiciens, etc. Et je me suis dit, ah ben, si je m'inscris et si je passe les auditions, pour pouvoir faire partie de cette famille des musiciens du métro. Peut-être que je pourrais me produire devant un vrai public. Et puis du coup, j'ai passé les auditions. Et puis j'ai été retenue, donc j'étais vraiment très contente. Il y a à peu près 2000 personnes qui passent les auditions. Il y en a 300 qui sont retenues, parce qu'il y a 300 stations de métro. Donc j'étais très très contente. Il m'a fallu 2 mois avant d'y aller, parce que j'étais complètement tétanisée. En fait, une fois que j'ai eu la réponse, j'ai eu peur, en fait. Et puis voilà, je me suis dit,
C'était quand? Ça a duré combien de temps, du coup?
Je l'ai fait pendant 2 ans. Alors pas tous les jours, évidemment, mais... souvent le week-end, j'avais ma petite station, mon petit coin, j'allais à Bastille souvent. J'ai pas beaucoup bougé, j'ai essayé Bastille, République. Et puis c'était aussi une stratégie de se dire, où est-ce que je vais jouer? Au début, je pensais que Châtelet, par exemple, ça pourrait être bien, mais en fait, Châtelet, c'est une station de correspondance. Les gens, ils gravitent, mais ils ne s'arrêtent pas du tout. Mmh. Alors que Bastille, les gens, ils vont boire des verres, ils sont déjà plus disposés à écouter.
Et tu jouais quoi, du coup?
Alors moi, je chantais, j'avais ma petite enceinte portative, je ne jouais pas de piano, je chantais simplement. Alors je chantais du coup les reprises que j'avais commencé à mettre en ligne sur Internet.
Et ces fameuses donc, reprises, par exemple, avec Doudou, il y avait Face à Face avec Mona, Face à Face de Mona notamment.
Alors j'ai surtout chanté, par exemple, Qu'est-ce à lever, Pays moi je dis, de Mario Canon. Okay. Est-ce où songer de Fernand Donatien? Il y avait Rêver de paille aussi.
D'accord. Et donc, il y a eu aussi, donc Bruno Mars, c'était après, du coup.
Oui.
L'année dernière, c'était extraordinaire. Là, tu te retrouves au Gare de l'Est, c'est la plus grosse station de métro d'Europe, il me semble. Et tu joues, tu as des gens derrière qui te prennent en photo et puis ça s'est viralisé.
Alors, c'était une super expérience. Pour moi, c'était un peu la concrétisation, justement, des 2 années dans le métro. J'avais envie de pouvoir... mettre ça en image, et c'est vrai que le piano à Gare de l'Est, je me suis dit ça pourrait être pas mal de jouer là. Et puis surtout de pouvoir en fait susciter l'attention avec une chanson que tout le monde connaît.
Oui.
Mais
voir les... de Bruno Mars.
Voir les réactions et de se dire mais je ne comprends rien. Et du coup de pouvoir attiser un peu la curiosité par rapport au créole en partant d'une chanson internationale.
Alors la traduction est de Loïc Jean-Louis, notamment.
Oui, notamment, c'est ça.
C'est un spécialiste du créole, il a écrit notamment le petit guide du créole martiniquais.
Exactement. En fait, j'ai la chance d'avoir un oncle linguiste en créole.
C'est ton oncle?
Oui.
Ok, félicitations.
Merci.
Et donc c'est une traduction en réalité de When I Was Your Man.
Exactement, c'est une traduction qu'on a voulu... on a voulu vraiment se rapprocher du sens le plus possible, mais c'était pas évident de faire non plus du littéral complètement parce qu'on voulait aussi emmener en fait des expressions typiques du créole pour aussi dans une démarche de découverte aussi. Oui. Et puis il y avait beaucoup de contraintes parce qu'on voulait que ça rime. Il y avait aussi des contraintes de syllabes pour respecter un petit peu la chanson. Donc c'était un exercice inédit pour ma part, mais très intéressant.
La suite pour toi, c'est quoi?
La suite pour moi, c'est de garder quand même cette idée de reprise. Je n'aimerais pas commencer à composer et ne plus faire ça.
Okay.
Parce que j'estime que c'est déjà ça fait partie de l'histoire, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a fait un petit peu émerger. Mm-hmm. Et j'aime en fait cette démarche de revisiter d'anciennes chansons. Donc ça me tient à cœur de pouvoir continuer à le faire. Mais c'est vrai qu'en parallèle, je prends beaucoup de plaisir à composer. Et du coup, la suite pour moi, c'est de pouvoir aussi montrer mon univers et essayer de graviter aussi autour de la composition.
Le mot de la fin, Kilia Poulin, est-ce que ça pourrait être des notes de fin, là? Juste une petite mélodie en quelques secondes, s'il te plaît.
Oui. L'odeur quand elle sait où, gouange quand c'est où. Couler l'âme, c'est où mon cas songer. Mais l'autre printemps, c'est lit, goût l'aventure, c'est lit. Couler aïe, c'est lit qui fait moins connaître d'autres chemins.
C'est où? Merci, Kélia Poulin, merci.
Merci beaucoup.
Longtemps, longtemps, tellement longtemps, mon Dieu, que moi t'ai déjà oublié. Toute richesse nous tenait à temps, tout pays déjà d'un moment. Il est là, pays a pas bien grand, mais c'est lui qui tout passe nous, c'est lui qui laisse pas nous toujours. Je dis-moi qu'à crier, malgré moi j'ai voyagé, visité tout pays, et en seul moi préféré, c'est pays moi, c'est la caille moi, c'est la moi, hey, vie, pas chercher pays moi.
Édition spéciale, le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le KEPCA, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Popurucho, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM.
Allez, en nous parler créole. Parlons maintenant créole. Il en existe une centaine de variantes. Plus de 15 millions de personnes parlent créole dans le monde. Et cette semaine a débuté le mois du créole avec de nombreux événements prévus jusqu'au 9 novembre. Parmi les temps forts, une grande dictée demain à la Sorbonne. Et nous sommes allés dans un collège de région parisienne rencontrer des élèves passionnés par cette langue. Guillaume Poisson et Elise Laperdrie.
et qui raconte les autres un petit conte. Donc, écoutez.
Vous n'avez rien compris à cette phrase. Normal, si vous ne parlez pas créole comme Delia.
Non, moi, c'est Delia. On y 12 l'année. Parler créole depuis l'année passée.
Collégienne, Léa et Delia participent à cet atelier en créole une fois par semaine.
Le sol, ça me plaît parce que déjà je peux rencontrer de nouveaux amis, je peux voyager, ça fait rêver quand on parle.
Ce jour-là, les élèves accueillent un invité spécial. Un conteur venu déclamer la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Mais à la sauce caribéenne. Ici, le corbeau est un coq, le renard un lapin et le fromage un gâteau à la noix de coco.
Mais c'est la peine de manger un morceau de gâteau coco. Mais parce qu'en quelle manière il fait, toute manière il est fait, mais c'est coq pas ou bébec lui.
Lui s'exprime en créole martiniquais, la professeure en créole guadeloupéen, car il y a autant de créoles que de territoires où on le parle.
Alors il faut toujours travailler dans le sens de l'ouverture et surtout pas considérer que nos langues doivent rester confidentielles. Non, ce sont des langues à part entière, donc elles ont vocation à être apprises, vocation à circuler.
En France métropolitaine, on peut passer le créole en option bac dans certaines académies et l'apprendre dès le primaire si l'école le propose, des avancées pas à pas.
Chaque acte compte. Et chez nous, Yoka dit, c'est tigraine d'iri, café, sac d'iri. Chaque grain de riz forme un sac de riz.
Et pour le mot de la fin, c'est Delia qui s'en charge.
Au revoir.
Dis-moi qu'à perdre dans le ciel, j'ai moins qu'à chavirer qu'on rayole qui nettoie pour elle. C'est où ma mère et ma besoin d'elle pour m'en découvrir d'autres affaires, d'autres rituels. L'autre comme elle, c'est où? Couangé comme c'est où? Couler l'homme, c'est où? C'est où moi qu'à songer? Mais l'autre printemps, c'est lui. Couler venti, c'est lui. Couler aïe, c'est lui. C'est lui qui fait moi connaître d'autres chemins. Et fais-moi voir dans saison, découvrir dans le printemps. Et c'est en trahison, gardez-moi à présent. L'envie et l'horizon, qu'à chercher en voyant. L'autre est comme elle, c'est où? Où en gît comme c'est où? Mais c'est où qu'à songer? Mais l'autre printemps, c'est lui. Où l'aventure, c'est lui. Où les haïs, c'est lui. C'est lui qui fait moi connaître d'autres chemins. En l'homme déjà passé, l'esprit moi tiraillé. Puis aller virer, c'est où c'est l'isoté. Jamais les moins assez, on passe à tes cités. Pardonne-moi, s'il te plaît. L'autre est comme elle, c'est où?
See you.
tout ça au cacachilé, là où c'est les virés bogaïs.
Cause créole tous les jours, le monde, il dit à nous oui dans l'ensemble, même s'il n'a encore chemin à pouffer.
Chez moi, oui, hein. Toute bonne marmaille, cause créole, quoi.
Et important pour vous ?
Ah ben oui, très.
Pourquoi ?
Ben parce que c'est notre racine, quoi, en fait. Voilà.
Ouais, toujours cause créole ?
Toujours.
Et la place le français avec le créole, comment ça t'imaille les deux ?
Ben surtout dans le travail, dans le bureau, tout ça imaille.
Il nous fait assez pour le créole aujourd'hui ?
Oui, oui, même à l'école, tout le monde y parle créole aussi, quoi, de base. Et après, il apprend de bonne marmaille à cause français, quoi, en fait.
Le créole, il sait apprendre le français aussi ?
Ben oui, aussi.
Est-ce que vous parlez créole ?
Un peu.
Beaucoup ?
Pas beaucoup, non.
Pourquoi ?
Parce que mes parents m'ont habitué à parler français. Du coup, je comprends le créole, mais je le parle pas forcément. Pour rigoler un peu comme ça, mais c'est pas une langue que je parle tous les jours.
Est-ce que vous pensez que parler créole, ça vous manque aujourd'hui ou pas ?
Non, pas forcément, non.
Créole, c'est la langue, le cœur, la langue, il sort dans notre trip.
Nous, on aime créole, nous connaissons créole, langue créole, toujours.
Vous sentez mieux quand on cause créole ?
Ah, mais ça, moi, beaucoup mieux créole, moi. Beaucoup mieux que français, parce que je n'aime pas parler français du tout. Ah, mais c'est un gros créole pire, hein.
La case, dans le chemin, entre camarades, n'a point problème. Mais dans le banc de bureau, c'est un autre affaire.
Déjà, au rentre d'un bureau, même les créoles, dans le bureau, ils ne font pas gros créole. Oh, quoi, un peu au placé. Ils ne font pas gros créole, écoute. Ils ne comprennent pas où. Ils ne comprennent pas, moi. En tant que créole, donc au créole. Pourquoi un créole ne comprend pas créole ? Il faut nous défendre notre identité. Maintenant, c'est les créoles, ils font gros créole, la honte de notre langue.
Vous croyez que c'est la honte, tu expliques ça ?
La honte, même. Non, l'orgueil.
Un langue, il s'obatte des fois pour continuer à exister, mais une langue vive et permet à nous de rester soudés.
À une époque, les créoles du Sud qui ne comprenaient pas les gens du créole du Nord. Aujourd'hui, ça se réunifie un petit peu. Le créole sera en train de se réunir parce que les gens bougent beaucoup. Avant, on ne bougeait pas. Il y avait des villages, ils parlaient créole, on pouvait pas comprendre. Mais justement, le fait que justement il y a un matching pot, le créole il s'unifie.
En créole, les mieux laissent de monde causer et chacun en a son-il l'expression préférée.
D'ailleurs, après bataille.
Aïti à feuille.
Pas avec ça.
Quand ça sort, ça vient du cœur, quoi.
Elle danse le Sega, le Zouk et le Maloya. Elle est belle et elle danse autour de toi. Elle connaît bien les pas de la calenda. Regarde là, elle ne danse que pour toi. Elle danse le Sega, le Zouk et le Maloya. Elle est belle et elle danse autour de toi. Elle connaît bien les pas de la calenda. Regarde là, elle ne danse que pour toi. Elle aime la biguine du temps de ses parents. Et aussi le galerie comme ses grands-parents.
Comme ça, la scène est visible.
zoti mon rapé santé. C'était moi qui d'un mot les guerres. Et puis un santé ensemble.
Comme ça, la scène est visible dans la vie. Il n'a pas de liberté. C'est les guerres oubliant la détresse. Ces outils m'ont rappelé santé. C'est une voix qui vient me léguer. Le bisin santé ensemble.
Liberté, oui, le Dieu de la déserte qui est héritier. La 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 la.
liberté, celui qui va oublier la détresse.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
The French have a very different relationship with work than the rest of us, right? In that they don't give a shit about it. Which honestly I found inspiring. Yeah, I feel like a lot of us have become a little too attached to our work, you know? We identify with our work. Have you ever asked somebody just randomly to be like, hey, tell me about yourself? And they'll be like, well, I'm an architect. And tell me about yourself. Well, you know, I own a hair salon. And tell me about yourself. And people will tell you about what they do. You know, it's become the thing that people focus on. The French don't do that. You'll never meet a French person who does that. You go up to a French person, you'll be like, excuse me, what do you do? Be like, oh, me, I go for walks with my friends and
You know, I like to, you know, eat good food. And you're like, no. What do you do for a living? It's like, for a living. Pardon. Okay, for a living. Okay, no, I breathe. And, of course, I have to make love, you know.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
De 11h à 13h, Pot Pourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Wallen. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pot Pourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfou. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfou, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfou. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfou s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfou. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur OISI. .utoronto.ca/fr/Créfou ou tout simplement popourichaud.com. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Pour la rentrée 2025 à 2026, Potpourri Show confirme son ambition de rester une référence incontournable de la francophonie d'ici et d'ailleurs. 2025-2026, des nouveautés, des débats, des coups de cœur, des coups de gueule, de nouvelles voix et du renfort avec les podcasts du CREFO. Les rendez-vous de Ciné Franco, les projets et initiatives visant les communautés immigrantes francophones de la région de Welland et du Niagara, avec nul autre que Sophie Franc. Les projets de Français du Monde Toronto, les rendez-vous et nouveautés littéraires de la communication et les éditions Prise de Parole. Le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI et France 24, les visites guidées du Musée Royal de l'Ontario, la playlist de nos DJ et de Tolalito Music, et les enjeux et défis de la francophonie et de l'intelligence artificielle. Singulière et plurielle, Potpourri Show assume son rôle de repère dans un contexte d'incertitude démocratique. Plus de détails sur potpourrishow.com. Et si vous souhaitez être parmi nos partenaires, une seule adresse, potpourri@cut.fm. Et voilà, qu'est-ce que tu écoutes comme ça? C'est quoi cette émission? Eh oui, en août 2025, Ciné Franco pense à vous. Ciné Franco est en plein effervescence pour la préparation de son festival grand public qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au Cinéma Carlton à Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce aux liens de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Chaque dimanche, découvrez les coulisses, les potins et les scoops du prochain festival grand public de Ciné Franco et courez la chance de gagner des billets sur cut.fm ou popourishow.com. Allez, vite sur le site de cinéfranco.com pour tout savoir. Bon festival Ciné Franco 2025.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Édition spéciale. Le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le KEPCA, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Potpourri Show, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM. Le mois du créole propose cette année une programmation riche et inclusive, concerts, spectacles, de l'humour, ateliers de danse, à la rencontre des écrivains et artistes créoles du monde, découvertes culinaires, la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien, conférences, table ronde et un hommage particulier à notre ami et grand musicien du groupe Kassav, parti hélas trop tôt, Jacob Desvarieux, à surveiller chaque dimanche sur CUT-FM. Du 4 au 31 octobre, le KEPCA et Sarel B, porte-parole, artiste multidisciplinaire et humoriste, vous invitent chaleureusement à visiter le site web moinducréole.ca ou popotichot.com pour la mise à jour de la belle programmation du mois du créole Montréal. Pour toute information, kepka@videotron.ca. Tout au long du mois d'octobre, découvrez la richesse et la beauté des peuples créoles du monde sur votre fréquence et sur moinducréole.ca. Mots en vie ou les cœurs contents. Bon mois du créole 2025.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI, 9h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dans 10 minutes, juste après le journal, la dernière partie de RFI Midi sur le continent américain. On parlera du Brésil, que son président présente comme un champion de la lutte pour l'environnement, mais qui vient d'autoriser l'exploration de fonds au large de l'Amazone par l'entreprise pétrolière Petrobras. On parlera aussi de l'actualité haïtienne avec le directeur de l'agence Alter Press et des Outre-mer françaises avec vous, Benoît Ferrand. En Martinique, l'affaire Madivial sera examinée par la justice dans un peu moins de 2 semaines maintenant.
Madivial, c'est une coopérative d'éleveurs accusée d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, ce qui aurait donné lieu à un gigantesque gaspillage de viande de poulet. Nous en saurons plus tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Le Québec où le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les médecins. Les soignants dénoncent la réforme prévoyant de mettre en place des objectifs de performance. Officiellement, ce serait pour accélérer l'accès aux soins. Ça ne va pas pour des équipes qui estiment que les autorités sont totalement déconnectées de la réalité. Et si les soins continuent, les étudiants en médecine, eux, ont déserté les hôpitaux en grève. Les stages et les cours sont suspendus. Nafia Alibert.
À première vue, c'est une journée ordinaire à la clinique d'orthopédie de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Des enfants en attente d'un suivi post-opératoire. Des plâtres qu'on enlève. D'autres composent la routine pour la chirurgienne Marilyn No.
Donc moi, les chirurgies que je fais, c'est la médecine du sport. Donc beaucoup de reconstruction de ligaments croisés, des arthroscopies de hanches, de chevilles, etc. Et je suis aussi clinicienne, chercheure et enseignante.
Mais un détail frappe, aucun étudiant en médecine autour d'elle aujourd'hui. Ceux qui d'habitude observent chaque geste, prennent des notes et posent des questions ont disparu de ce grand hôpital universitaire depuis plus d'un mois.
Tous les médecins sont en grève d'enseignement. Alors, on n'a plus d'externes. Tous les autres stages ont été annulés. C'était une façon de protester sans avoir d'impact sur les soins administrés aux patients.
Une grève inédite pour dénoncer le projet de loi 106, la grande réforme par laquelle le gouvernement du Québec veut améliorer l'accès aux soins, car ici, un habitant sur 6 n'a pas de médecin traitant et les délais pour une chirurgie se comptent en mois.
L'idée du projet de loi 106, c'est d'essayer de régler ce problème-là en imposant des cibles à atteindre aux médecins.
Voir plus de patients plus vite, c'est la clé du gouvernement pour désengorger le système. Mais pour les soignants, ces cibles de performance restent floues et surtout, elles seraient collectives avec une partie de leur salaire désormais liée à ces objectifs.
Puis c'est ça la sanction, c'est que si les cibles sont pas atteintes, il va y avoir des coupures salariales. Mais l'accès aux soins n'est pas relié au salaire des médecins.
Pour les praticiens, cette nouvelle réalité ne tient pas compte du manque de ressources qui paralyse déjà le système de santé québécois.
Actuellement, au Québec, les chirurgiens, ma spécialité, l'orthopédie, on a des ressources pour travailler 3 jours sur 5.
Ce n'est pas un choix, c'est un manque de salles et de personnel disponible. Du bloc opératoire à la première ligne, le constat est le même.
La situation actuelle, elle est intenable.
La docteure Pascale Bro exerce dans l'est de Montréal. Son équipe de 24 médecins généralistes suit déjà 13 000 patients. Si la réforme passe, ce chiffre pourrait doubler sans plus de moyens.
Mais mes locaux sont pas plus grands. J'ai pas plus de secrétariat, j'ai pas plus d'infirmières.
Elle reproche au gouvernement de faire peser sur les épaules des médecins la responsabilité d'un système déjà à bout de souffle.
Je pense qu'ils ont aucune idée d'à quel point c'est lourd être médecin de famille. C'est lourd parce que les patients sont complexes, ils ont plein de problématiques-là. Puis moi, je suis leur seule porte d'accès dans le système. Et offrir l'accès, ça ne peut pas reposer que sur les médecins, ça doit reposer sur toute une équipe.
Pendant ce temps-là, la relève attend sur le banc de touche. Les amphithéâtres des facultés de médecine sont vides.
Le sentiment d'anxiété et de peur, ça commence à s'installer là.
La formation s'est arrêtée net il y a 5 semaines pour Su Yi Wan. Pour cet étudiant en deuxième année de médecine, plus aucun cours et plus de stage.
déjà on n'a pas de cours magistraux, fait que déjà là on perd beaucoup d'enseignements, puis surtout mes cours à l'hôpital en ce moment, là c'est complètement annulé, on perd notre contact avec les patients aussi.
Et la motivation avec lui?
Mais c'est difficile d'étudier là, quand il y a toute cette incertitude qui plane autour.
Ils sont plus de 5000 étudiants touchés à travers la province. La grande majorité soutient les professeurs, mais les doyens préviennent. La grève compromet déjà la remise de certains diplômes l'été prochain pour une génération d'apprenants suspendus entre deux réformes. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Direction les États-Unis maintenant pour la suite et la fin de votre revue de presse à Rim Lipold. Les éditorialistes reviennent sur la vidéo postée par Donald Trump en réponse aux manifestations No Kings le week-end dernier, pour critiquer une dérive autoritaire du gouvernement.
Dans une vidéo générée par l'IA, Donald Trump apparaît coiffé d'une couronne et aux commandes d'un avion de chasse qui largue ce qui semble être des excréments sur les manifestants. Hein. Ce clip posté sur True Social et retweeté par la Maison-Blanche a provoqué l'indignation du New York Times. L'éditorialiste dénonce une mise en scène scatologique qui illustre à la fois le mépris de Donald Trump pour une partie du pays et son obsession à rabaisser les institutions et les citoyens qu'il prétend diriger. Le président, écrit l'éditorialiste, ne voit plus les Américains urbains comme des concitoyens, mais comme des sujets à soumettre. Et selon l'édito de USA Today, Donald Trump réagit comme un roi fou par rapport aux manifestants qui ne faisaient qu'exercer leur droit du premier amendement de la Constitution, à savoir la liberté de l'expression, et cela d'une manière pacifique. L'éditorialiste de conclure, mais bon sang, que se passe-t-il? Comment l'Amérique, depuis l'investiture de Donald Trump, a pu-t-elle sombrer aussi bas, jusque dans la boue, littéralement?
Achim Lipold, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va maintenant lire la presse haïtienne. Nous sommes en ligne, comme tous les mardis, avec le directeur de l'agence Alter Presse. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
Les gangs accentuent la pression, les violences, notamment dans le département de l'Artibonite. Et sur place, les habitants de deux communes en appellent aux forces de l'ordre.
Oui, les habitants de Desarmes et Verrette, précisément, lancent des appels urgents aux autorités policières pour renforcer la présence dans la région. Ils craignent un scénario similaire à d'autres zones contrôlées par les gangs armés. Selon des messages reçus, Desarmes est devenu un véritable front de guerre. La majorité de la population a fui, certaines proches résistent avec des blessés et des assaillants ont incendié de nombreuses maisons. La situation se détériore rapidement à Verrette où un renfort policier est jugé indispensable pour éviter un effondrement sécuritaire dans cette partie de l'Artibonite.
Et puis les assauts de gangs se sont multipliés aussi ces dernières heures, ces derniers jours dans d'autres points du pays, dans l'Artibonite toujours et puis à Port-au-Prince où les cris d'alarme aussi sont de plus en plus nombreux.
D'abord à Mont-Rouy, les habitants s'opposent à l'arrivée d'une centaine d'individus armés venus de Canaan, en périphérie de la capitale, craignant la formation d'un nouveau groupe criminel dans la région, dans l'Artibonite. Des patrouilles ont tenté de rouvrir les routes à Petite-Rivière, Liancourt et Pont-Sondé, toujours dans l'Artibonite, mais la présence de la force multinationale reste peu visible sur le terrain. À Port-au-Prince, de nouveaux affrontements ont éclaté à Turgeot, dans la capitale, tandis qu'à Carrefour, en périphérie, les chauffeurs dénoncent l'augmentation illégale des droits de passage imposés par les gangs.
Et puis Alter Presse nous apprend que l'auteur Yannick Lahens fait partie des finalistes du Grand Prix du roman de l'Académie française.
Oui, son titre « Passagère de nuit », l'écrivaine haïtienne concourt aux côtés de Pauline Dreyfus et Alfred de Montesquieu. La remise du prix est prévue le 30 octobre. La Direction nationale du livre en Haïti souligne que Yannick Lahens confirme sa place parmi les grands noms de la littérature haïtienne et mondiale. Son roman rend hommage à la ténacité des femmes du XVIIIe siècle, incarnant la souveraineté du silence.
Godson Pierre, tous ces articles sont à lire sur votre site alterpresse.org. L'actualité des Outre-mer françaises à présent. Benoît Ferrand en Martinique d'abord, où l'affaire Medivial sera examinée par la justice dans un peu moins de 2 semaines.
Madivial, c'est cette coopérative d'éleveurs accusée d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, ce qui aurait donné lieu d'ailleurs à un gigantesque gaspillage de viande. Cécile Marre.
Des chiffres qui donnent le tournis. Dans l'affaire Madivial, les rumeurs de gaspillage courent depuis 2016, mais personne ne s'attendait à une telle ampleur. Selon nos sources, les dirigeants de la coopérative agricole auraient organisé une surproduction massive de poulets, notamment, en vue de toucher les fonds européens. Concrètement, cela signifie qu'environ un tiers des animaux abattus n'auraient jamais été consommés par personne, mais auraient fini à la décharge. On parle de 3000 tonnes sur la seule période de 4 ans jugée au tribunal. C'est l'équivalent de 10 millions de repas. 5 personnes sont convoquées devant la justice lundi 3 novembre. Des dirigeants actuels et passés de Madivial, ils devront répondre du chef d'accusation d'escroquerie, entre autres. Des accusations qu'ils ont toujours niées et continuent à réfuter. Ils mettent en avant les fréquents contrôles des instances comme la direction de l'agriculture et des forêts. Nul doute que le procès permettra également de questionner ces contrôles, dans la mesure où l'ampleur du gaspillage dénoncé semble leur avoir totalement échappé.
Justice, suite, corruption, faux et usage de faux, trafic d'influence, tels sont les faits reprochés aux trois personnes, dont un maire en exercice, appelé à comparaître ce mardi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Nous sommes en Guadeloupe, bien sûr, au centre du procès. Un marché, passé avec une société de travaux publics par le maire des Abîmes, Éric Gelton, quelques semaines avant le premier tour des élections municipales de 2014. Éric Stimpfling.
Marché qui, selon l'ordonnance de renvoi que nous avons pu consulter, a donné lieu à des facturations dépassant les 1,2 millions d'euros. En contrepartie, Sylvain Fifi a payé plusieurs frais de campagne du candidat Gelton, comme par exemple 760 t-shirts frappés du logo de la frappe ou encore des frais de bouche et d'imprimerie. Un pacte gagnant-gagnant qui a visiblement fonctionné puisque la liste emmenée par Éric Gelton l'a emporté dès le premier tour au grand dam de son principal adversaire. Olivier Servat a alors porté plainte, c'était le 7 mars 2014. 11 ans plus tard, le maire Éric Gelton, Franz Velayudon, le mandataire financier de sa campagne électorale et Sylvère Fifi, l'entrepreneur, sont donc convoqués devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Ils devront répondre notamment des faits présumés de corruption active et passive, trafic d'influence et faux et usage de faux.
Affaire à suivre, selon la formule consacrée. Bon après-midi Anne, à demain.
À demain Benoît Ferrand.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
t'es pas courageux, t'es bien plus que ça, oui.
Édition spéciale, le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le KEPCA, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Popuru Show, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM. Le mois du créole propose cette année une programmation riche et inclusive, concerts, spectacles, de l'humour, ateliers de danse, à la rencontre des écrivains et artistes créoles du monde, découvertes culinaires, la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien, conférences, tables rondes et un hommage particulier à notre ami et grand musicien du groupe Cassave, parti hélas trop tôt, Jacob Desvarieux, à surveiller chaque dimanche sur CUT FM. Du 4 au 31 octobre, le KEPCA et Sarel B, porte-parole, artiste multidisciplinaire et humoriste, vous invite chaleureusement à visiter le site web moiducréole.ca ou popurucho.com pour la mise à jour de la belle programmation du Mois du Créole Montréal. Pour toute information, kepka@videotron.ca. Tout au long du mois d'octobre, découvrez la richesse et la beauté des peuples créoles du monde sur votre fréquence et sur moiducréole.ca. Mots en vie ou les cœurs contents. Bon mois du créole 2025.
Comme disait Édouard Glissant, nous sommes le creuset du monde.
Une langue qui ressurgit après des siècles de mépris.
Aïe. Il est interdit de parler créole. C'est impoli déjà de parler le créole à ses parents, à cette époque-là.
Les amis, est-ce que nous perceptez ça ? Les amis, est-ce que nous...
Et des intellectuels qui travaillent à l'élaboration d'une identité.
La créolité n'est pas une question de gènes, de chromosomes. C'est un mélange de culture, de tradition, d'imaginaire, de désir de vivre ensemble.
Chaque année en Martinique, le carnaval s'empare de la foule. Le dimanche précédent le mercredi des cendres, c'est le début des jours gras. Quatre jours de fête et de transgression. C'est aussi un moment identitaire avec des incontournables, comme la figure de Marianne Lapofigue, faite en feuilles de bananier.
Marianne Lapofigue, c'est un des personnages qui fait partie du panthéon de nos personnages traditionnels, le panthéon des personnages de l'ordre du sacré. C'est-à-dire ceux qui nous viennent directement de l'héritage ancestral et spirituel africain, béninois, yoruba.
Marilyn Psyché-Salpêtrier est la présidente de l'association Recherche et Tradition. Son objectif, valoriser la culture martiniquaise.
raconte notre carnaval, nous raconte notre histoire. Il s'est constitué à l'image de nous, notre peuple. Nous sommes composés d'origines diverses de toute la planète, européenne, de la partie subsaharienne de l'Afrique, les personnes qui ont été mises en esclavage par les colons français, et puis aussi nos ancêtres Kalinagos, qu'on appelle les Amérindiens, Arawak, Caraïbes.
Une grande diversité de populations concentrée dans l'un des plus petits départements français, à près de 7000 km de Paris. Cette particularité, plusieurs intellectuels ont tenté de la conceptualiser au cours du XXe siècle.
Cette identité avait d'abord été définie comme nègre par Aimé Césaire dans les années 30. Ensuite, dans les années 60, il y a eu Édouard Glissant qui l'avait définie comme une île antillaise appartenant à ce qu'il appelait l'antillanité. Et nous, la génération de la fin des années 80, nous avons voulu prendre en compte le mouvement du monde, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque la mondialisation, la globalisation. Toutes les cultures du monde aujourd'hui sont obligées de vivre ensemble. Oui, mais nous, ça fait 3 siècles qu'on vit avec toutes les cultures du monde ici. Donc nous avons écrit cet éloge de la créolité, que l'on peut résumer comme étant l'éloge de, non pas l'universalité, mais la diversalité. C'est-à-dire l'acceptation de toutes les diversités du monde. Et puis ça peut être défini aussi comme l'identité multiple, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans une seule identité. Je suis noir, je suis blanc, je suis asiatique, je suis indien, mais de partager en nous, en ayant bien sûr une identité principale, mais en partageant les autres identités.
En Martinique, on parle aussi bien français que créole.
Ça fait beaucoup moins.
Eh bien, mon Dieu.
Ça a marché pendant la
balle.
Ça a fait mon cher.
Oui, nous là.
Je dis, mon café bon soupe.
Oui, mon café ça toute la semaine.
Et soupe pied, c'est ça, moi.
Ah, les tiadelles.
Le créole s'est formé au cours des siècles de colonisation. Parole populaire associée à l'esclavage, elle a longtemps été méprisée et interdite en classe. Sur la plage où elle a grandi, la chanteuse du groupe Kassav se souvient de son enfance.
Disons qu'on était dans une famille moyenne où il fallait de toute façon réussir, apprendre à l'école et avoir un bon métier. C'est la période un peu post-esclavagiste. Le grand-père de ma mère était esclave. Il est interdit de parler créole. C'est impoli déjà de parler le créole à ses parents, à cette époque-là, dans cette partie de la société. Comme pour eux, c'est le sésame, la langue française doit être privilégiée. À l'école communale, là, dans la cour de récréation, évidemment, avec mes copains, j'étais obligée de me mettre au créole. Et les chansons en plus, les chansons de chez nous, qui étaient très populaires, celles que ma mère aimait, celles sur lesquelles mes parents dansaient, étaient essentiellement en créole. Celle qui me vient tout de suite, c'est « Assis par les mains, pas belle encore, allez bouwo, le kaila m'a qu'il paye, bah ouais, elle dit qu'elle va payer son loyer toute seule, et compagnie, qu'elle va s'occuper de l'enfant, il peut partir. »
Très bonne élève, Jocelyne Berroir part faire ses études à Paris à l'école des Beaux-Arts. Mais bientôt, l'amour de la musique la rattrape et sa voix est remarquée par le groupe Kassav. Kassav qui veut dire manioc en créole.
Ça, comme ça, tout le monde rentre dedans, tout le monde adopte ce truc. On a sillonné toute l'Afrique. Ce qui fait qu'on revient avec des scores impensables, parce que même chez nous, le maximum qu'on avait fait, c'était 15 000 personnes dans un stade. Et là, on revient avec 80 000 personnes. Moi, j'ai beaucoup d'amis africains qui ont appris des expressions créoles grâce aux morceaux qu'ils ont adorés et qu'ils ont chantés parce qu'ils aimaient ça. C'est tout.
Pendant que Kassav remplit les stades et les chœurs, les intellectuels martiniquais travaillent à poser les bases de la langue créole sous la houlette du professeur Jean Barnabé.
Pendant plus de 30 ans, nous nous sommes battus pour créer une orthographe qui est reconnue aujourd'hui, pour publier des grammaires, pour publier des dictionnaires. Je suis l'auteur du premier dictionnaire de créole martiniquais. Nous avons fait tout ce travail. Mais nous nous sommes battus aussi pour l'introduction du créole à l'école.
Un créole qui ne serait pas seulement l'apanage de la Martinique, mais de toutes les sociétés créolisées.
Nous, Martiniquais, si on parle en Martiniquais, on va trouver un peu bizarre le créole réunionnais.
Mais avec un minimum d'efforts, on peut se comprendre. Alors, justement, ce que nous avons essayé de faire à l'écrit, hein, c'est de créer une langue écrite qui soit une espèce de, comment dirais-je, de lien entre tous ces territoires. Alors, c'est très difficile. Mais moi, par exemple, je n'écris pas en créole martiniquais. J'emploie des mots guadeloupéens, haïtiens, chaque fois que c'est nécessaire, même réunionnais et tout. Et j'appelle ça le créole écrit, qui est différent du créole oral.
Mardi gras, jour férié en Martinique, les Diables Rouges sont de sortie. Figures mythologiques, ils exorcisent les peurs et enflamment le carnaval. Chaque formation artistique est sous pression pour faire le plus beau défilé.
Chaque groupe a son thème. Nous, notre thème, c'est Dios de los Muertos aujourd'hui. Donc rouge et noir avec le petit côté un peu espagnol, tout ça. Donc ce qui est dans l'état d'esprit de la tradition, parce que normalement, c'est le jour des Diables Rouges. Mais voilà, nous, on l'a mis à notre sauce aujourd'hui, donc en ramenant une petite touche différente.
Un moment de liesse, mais aussi de revendication politique. Cette année, le roi du carnaval est un gros rat, avide de profit, qui se moque de la population.
Le message, c'est vraiment, on ne peut pas faire grand-chose ici. Pourquoi ? Parce que pas grand-chose est accessible pour tout le monde. Tout est cher, parce que même ceux qui travaillent, ils s'en sortent pas.
Des propos qui font écho aux manifestations qui ont agité l'île récemment. Porté par le collectif Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, le RPRAC, la contestation s'est cristallisée sur les nombreux produits importés de l'Hexagone. Parmi les leaders du mouvement, ce jeune agriculteur qui dénonce le manque d'aide à la production locale, tandis que le chiffre d'affaires de la grande distribution n'en finit pas d'augmenter.
C'est une marmite qui bouillait depuis un moment parce que ça fait des années qu'on achète tout 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher. Parce que même les touristes qui viennent en Martinique, ils nous disent comment vous faites pour vivre ici et acheter les choses aussi chères. Mais quand on arrive ici, on se rend compte que c'est invivable. Et nous, on vit là 365 jours de l'année. Si on fait partie de la France, on doit bénéficier de la même manière de vivre.
Fait notable, tous les rassemblements des mouvements contestataires en Martinique se tiennent en créole. Considérée comme la langue du peuple.
Les amis, est-ce que nous perceptez ça ?
Non !
Les amis, est-ce que nous perceptez ça ?
Non !
L'important, c'est de gagner la guerre.
Être créole, c'est avoir un passé, c'est ancré en nous. Quand on veut revendiquer quelque chose, on prend la langue qui nous parle au fond de notre cœur, c'est le créole. On est obligé de parler français pour que les Français puissent comprendre, puisqu'on est dépendant de la France jusqu'à maintenant. Mais le jour qu'on n'est plus dépendant de la France, on va parler créole. Ce sera notre langue maternelle. Donc ce sera la langue de la Martinique, le créole.
L'autonomie n'est pourtant pas d'actualité. En 2010, les Martiniquais ont voté contre dans leur vaste majorité. En revanche, la culture créole, elle, n'en finit pas de gagner du terrain.
En créole, on dit sommeil prend moins. C'est le sommeil qui t'a pris. En fait, tu n'as pas pris le sommeil, tu ne peux pas prendre le sommeil. Tu t'es endormi parce qu'à un moment, ton corps a lâché prise et le sommeil est venu te chercher. C'est ça la langue créole. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans sa poésie, dans un truc de tous les détours qu'on peut prendre. Et c'est ce qui m'amuse, moi, quand j'écris des textes dans Kassav, c'est de pouvoir justement, moi, aller plus loin que la phrase trop simple de tous les jours et offrir aux gens un peu plus de poésie.
Quant au concept de créolité, dans un monde menacé par l'uniformisation, il est plus que jamais nécessaire.
Alors la créolité n'est pas un mélange de gènes, de chromosomes, même si le métissage a bien eu lieu pendant quelques siècles. C'est avant tout le mélange, ou le métissage si l'on veut, de culture, de tradition, d'imaginaire. Et c'est cela qui fait sa force. C'est-à-dire, la créolité, c'est au fond le contraire de l'apartheid.
proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Et toi là, qu'est-ce que tu écoutes comme ça? C'est quoi cette émission? Eh oui, en août 2025, Ciné Franco pense à vous. Ciné Franco est en pleine effervescence pour la préparation de son festival grand public qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au Cinéma Carlton à Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce aux liens de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Chaque dimanche, découvrez les coulisses, les potins et les scoops du prochain festival grand public de Ciné Franco et courez la chance de gagner des billets sur cut.fm ou popourichaud.com. Allez vite sur le site de cinéfranco.com pour tout savoir. Bon festival Ciné Franco 2025.
Mon grand-père était un projectionniste itinérant. Quand j'étais toute petite, entre l'âge de 4 ans et je dirais 8 ans, nous racontait à un moment donné tous les films qu'il projetait dans une nouvelle salle à Casablanca d'art et d'essai qui s'appelait Le Triomphe. Et c'est ça un peu qui m'a menée au cinéma comme un outil également, un outil d'apprentissage, un outil de découverte. On n'arrivait pas à se débarrasser tout le temps de ce mythe du film français, en particulier Intello. Je voulais faire quelque chose dans la continuité justement de transmettre cette langue vivante qui ne s'est pas arrêtée dans les années 60 et donc et qui a évolué.
Alors je vous souhaite un très bon cinéma.
Ce festival serait d'abord d'être un festival rassembleur. Rassembleur justement de cette francophonie éclatée que nous vivons ici à Toronto. Que nous puissions aussi nous faire comprendre des autres, que les autres, les anglophones, les gens qui ne nous connaissent pas, ils auraient la possibilité, à travers le cinéma, de comprendre notre façon de penser, de comprendre nos habitudes sociales.
Il y a une part d'identification, peut-être pas d'identification, mais une part de... Il y a un affect, certainement.
J'ai commencé en 1998 avec un ciné-club festival plutôt de films français que francophones. Et très très vite, dans les 5 ou 6 premières années, Ciné Franco a explosé en fait. Au départ, nous avions énormément de francophones. C'était les francophones donc qui s'appropriaient un petit peu hein, du Ciné Franco.
À Ciné Franco, ben, comme on se retrouve à Toronto, il y a aussi beaucoup de francophiles. Et il y a beaucoup de cinéphiles aussi, même anglophones, qui s'intéressent au cinéma français. Les anglophones de Toronto se déplacent et viennent voir et viennent célébrer le cinéma francophone.
Alors là, ça fait un plaisir extraordinaire parce que on a l'impression d'un seul coup que le cinéma francophone rayonne.
Par le passé, à Ciné Franco, j'ai eu la chance de présenter quelques courts-métrages.
La part du cinéma franco-ontarien est très importante pour Ciné Franco.
L'expérience de vivre un film en salle, en foule, et de voir à l'écran, de pouvoir se reconnaître à l'écran. Il y a quelque chose d'unique et de magique.
Je trouve que maintenant, l'industrie cinématographique franco-ontarienne s'améliore et vraiment atteint une maturité artistique qui vaut la peine d'être montrée.
Cette année, c'est Franco, je vais présenter Noël en bois, mon premier long-métrage fiction.
Le schéma idéal pour moi, et je rêve en Technicolor, là, ce serait d'avoir une salle de cinéma totalement consacrée à la francophonie.
Donc le marronnage en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique francophone, c'est vraiment un terme de fierté qui parle de la manière dont on peut briser ses chaînes. Salutations à la communauté fraîche, je suis Simon Moutaïrou, scénariste, réalisateur du film Ni chaîne ni maître, qui n'est pas un film sur l'esclavage, mais un film sur le marronnage, sur celles et ceux qui ont brisé leurs chaînes, qui se sont enfuis des plantations, qui ont réécrit leur destin. C'était vraiment important pour moi en termes d'engagement de raconter cette histoire en 2024, parce que l'oppression est encore là. On peut être opprimé parce qu'on est une femme, pour sa religion, pour sa couleur de peau, pour son origine sociale, et je voulais vraiment montrer les marrons et les marronnes pour nous inspirer, pour nous élever, pour nous dire que même quand on est dans la pire oppression, il est toujours possible de dire non. Quand je suis en quatrième, c'était avant la loi Taubira de 2000 ans, on me parle du commerce triangulaire, et en fait, on parle que de chiffres. Il y a la France, les États-Unis, l'Afrique, c'est comme si elle était totalement déshumanisée. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle que ça me met en colère. Et en fait, il y a un ami du basket qui me parle de la littérature créole. Donc, Chamoiseau, Glissant, Maryse Condé, Aimé Césaire. Et je lis cette littérature et elle devient le complément de ce que j'ai peu appris à l'école. Et j'y trouve de la fierté, de l'inspiration, de la poésie. J'ai longtemps attendu ce film en tant que cinéphile. Je suis venu à Paris, j'ai commencé à faire mes armes dans le cinéma français. Et j'étais persuadé que quelqu'un allait faire un film sur ce sujet. Parce que c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre couleur. Et comme le film n'est pas venu, le destin a fait que c'est moi qui l'ai porté. Au XVIe siècle, on appelait en espagnol cimarron, l'animal domestique qui retournait à l'état sauvage. Et quand l'esclavage a été décrété et que des hommes et des femmes ont été traités comme des animaux, de la même manière, on a dit que l'esclavisé, homme ou femme qui s'enfuyait de la plantation, était comme un chien marron, donc un animal qui retournait à l'état sauvage. Et ce qui est très puissant, ce qui est très beau, comme pour la négritude, c'est que ce sont des termes extrêmement méprisants et extrêmement négatifs qu'on a repris pour notre propre fierté. Et donc le marronnage en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique francophone, c'est vraiment un terme de fierté qui parle de la manière dont on peut briser ses chaînes. Le message que je veux faire passer, c'est celui de la résilience, du courage, et c'est celui de l'engagement. Parce qu'en fait, à l'époque de l'esclavage, tu as un système dominant qui te dit que certains êtres humains sont des animaux. Et très peu de personnes ont le courage de questionner ce système, de questionner cette horreur. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle à faire avec notre époque. C'est-à-dire que dans notre époque également, il y a des injustices criantes, il y a des oppressions terribles. Je rappelle que l'esclavage dans plusieurs pays est encore une réalité. Et le cynisme, c'est de croire qu'on ne pourra rien faire. Évidemment qu'on peut faire quelque chose en s'engageant, en étant courageux, en la jouant collectif. Donc il était temps, surtout dans la France fracturée de 2024, de parler de notre passé commun. Et c'était mon objectif avec ce film. J'ai choisi la voie du cinéma parce que je suis fou du cinéma et que le cinéma a un énorme pouvoir sur les consciences. Aujourd'hui, si tu veux toucher les gens, si tu veux les marquer à vie, si tu veux légèrement influer sur l'inconscient collectif, c'est vraiment avec le cinéma que tu peux le faire. Pour moi, le cinéma, il a le pouvoir de mettre de la chair, de l'émotion dans les livres d'histoire. Donc pour moi, nous les artistes, c'est vraiment important qu'on soit capable de compléter le travail des historiens. Et les marrons, les marronnes, c'est des héros, des héroïnes de l'histoire de France. Et voilà, j'ai fait ce film parce que je voulais leur ériger une statue politique, mais aussi une statue esthétique. Parce que pour moi, c'était vraiment important de mettre en valeur la beauté de ces visages, la beauté de ces langues, le Wolof, le Bambara, le Moray, et la beauté de cette spiritualité, l'animisme africain.
Édition spéciale. Le mois du créole est de retour. Tout au long du mois d'octobre, le KEPCA, le mois du créole à Montréal, en partenariat avec Popurucho, célèbre en grande pompe les langues et les cultures créoles à Montréal et sur CUT 89,5 FM. Le mois du créole propose cette année une programmation riche et inclusive, concerts, spectacles, de l'humour, ateliers de danse, à la rencontre des écrivains et artistes créoles du monde, découvertes culinaires, la foire du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien, conférences, table ronde et un hommage particulier à notre ami et grand musicien du groupe Cassave, parti hélas trop tôt, Jacob Desbarrieux, à surveiller chaque dimanche sur CUT FM. Du 4 au 31 octobre, le KEPCA et Sarel B, porte-parole, artiste multidisciplinaire et humoriste, vous invite chaleureusement à visiter le site web moiducreole.ca ou popurucho.com pour la mise à jour de la belle programmation du Mois du Créole Montréal. Pour toute information, fk@videotron.ca. Tout au long du mois d'octobre, découvrez la richesse et la beauté des peuples créoles du monde sur votre fréquence et sur moisducréole.ca. Mot en vie ou l'équerre content. Bon mois du créole 2025.
Promouvoir la diversité culturelle en défendant la langue et la culture créole et en favorisant l'interaction interculturelle du 4 au 31 octobre, c'est le mois du créole. Et tout au long de ce mois, Popourri Show, CUTFM et KEPCA vous invitent à célébrer les cultures, les langues en partenariat avec le mois du créole à Montréal. L'équipe du KEPCA, Sarah LB, chaque semaine, vous serez avec nous par la magie des ondes, n'est-ce pas, pour célébrer la 24e édition du Mois du Créole. Et Joël Laban, vice-président du KEPCA, qui a longtemps collaboré à une émission en langue créole sur Radio France Internationale comme journaliste et chroniqueur, il sera des nôtres dans la deuxième heure. Donc ce sont des voyages, hein, des découvertes chaque fois différentes, des pays, des îles, des patrimoines, des pratiques, savoirs hérités en commun que nous nous efforçons de faire vivre, recréer et transmettre. De belles découvertes au rendez-vous lors de ce mois du créole avec nous dans cette 24e édition du mois du créole. Sarah LB, qu'est-ce que vous aurez à partager comme message pour inviter tous nos auditeurs, mais aussi ceux qui n'ont jamais côtoyé les cultures créoles, les langues créoles, un message à ces gens qui sont peut-être encore un peu timides et qui hésitent?
Moi, je leur dirais de venir déjà à la rencontre, à la découverte de plusieurs peuples créoles qui sont, nous sommes des peuples chaleureux. On vient de pays chauds, donc on a énormément de belle énergie à partager. On a des artistes de grande renommée qui sont souvent, malheureusement, pas assez connus, promus. Donc là, c'est une occasion de les rassembler. Et comme je disais, le mois du créole, l'équipe KEPCA fait un travail phénoménal d'arriver à réunir tous ces gens de la scène internationale créole et à les amener pour une grande programmation diversifiée à Montréal tout au long du mois d'octobre. Donc venez, ne soyez pas gênés, nous sommes accueillants, nous sommes parmi vous. Et la langue créole fait partie, parce que comme on disait tantôt, c'est une langue qui est popularisée, très 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 popularisée. Puis on va le voir chez les jeunes, il y a des mots de créole qui s'inscrivent dans toutes sortes de dialogues. Je vois des gens d'origine maghrébine, des Asiatiques, des Québécois qui utilisent des mots couramment, des mots en créole couramment qu'ils insèrent dans leur langage en français. Donc, c'est une langue qui est contagieuse. Donc, venez découvrir le peuple qui la porte sous plusieurs angles, de plusieurs manières, tout au long du mois d'octobre. On vous attend.
Et je vous laisse avec le saxophoniste Jacques Schwartz-Bart, madame, monsieur, qui sera au lancement du Mois du Créole, 24e édition. Merci en pile, cher Sarel, et j'espère vous avoir sur cette antenne ou peut-être en chair et en os à Toronto, un de ces jours. Bon Mois du Créole.
Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
Maman, tu vas le lait. Maman, tu vas le lait. Maman, tu vas le lait. Maman, tu vas le lait.
Thank you.